L'histoire des cagots, ou cache-carottes, est vieille de plusieurs siècles. Dans son dernier livre, le Sibourien Che Paola Isola nous la raconte et révèle qui ils étaient et pourquoi ils ont été persécutés depuis le Moyen-Âge, alors qu'en apparence, rien ne permettait de les distinguer du reste de la population.
Alors, expliquez-nous qui vous êtes. Est-ce que je peux dire que vous êtes historien ?
Bien, je suis ingénieur électromécanicien de formation. J'ai fait le Conservatoire des arts et métiers à Paris. Je parle quatre langues, le euskara, le français, l'anglais et l'espagnol. J'ai travaillé, comme beaucoup de Basques, à l'étranger. Mais j'ai toujours gardé mes racines basques, parce que je suis d'ici et venu par ailleurs.
Est-ce que l'école, l'histoire était la matière qui vous intéressait plus que les autres ?
Disons le français, pour être honnête. Le français me plaisait beaucoup. Et j'aurais pu faire une carrière dans l'enseignement, le professorat, mais enfin, j'ai choisi le technique et je m'en portais bien, parce que bon, ça m'a beaucoup plu.
Alors c'est venu comment cet intérêt pour l'histoire ou les histoires ?
C'est-à-dire que lorsque je suis revenu ici, j'ai pris ma retraite, on m'a demandé d'écrire mes copains d'Algérie, parce que j'étais à la garde d'Algérie comme soldat arrivé du contingent, on m'a demandé d'écrire un bouquin, et j'ai écrit un bouquin. Et un jour, une dame m'a dit « Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce livre ?» Elle m'a dit « Oui ». Alors elle m'a répondu « Quand on prend votre livre, on ne peut plus le lâcher ». Et depuis cette date, eh ben, j'écris. Et puis bon, j'écris maintenant l'histoire du Pays Basque et de l'Aquitaine.
Oui, vous êtes rapproché de votre pays. Donc vous vous êtes dit « Il faut que je connaisse, que je comprenne son histoire ».
Oui, c'est ça. Et ce qui m'a interpellé, c'est que bon, ici il y a un peuple qui s'appelle les cache-carottes. Ailleurs, ce sont les cagots, les gaffés à Bordeaux. Et j'étais interpellé par ces gens et j'ai voulu savoir d'où ils venaient, parce que il y a des tas d'écrits qui existent, mais personne n'a jamais prouvé réellement d'où ils sont venus. Pourquoi ils sont venus ici, etc., etc.
Bon, alors déjà, on va essayer d'expliquer cette notion de cagot, de cache-carotte. Alors, si j'ai bien compris, c'était des personnes qui vivaient ici, par exemple, chez nous, mais qui étaient considérées comme différentes des autres, alors que ni leur couleur de peau, ni leur coutume, ni aucune particularité même religieuse, pouvait permettre de les différencier du reste de la population.
Bah, tout ce que vous venez de dire est parfaitement exact, et justement, c'est ça qui était difficile à trouver et à prouver, parce que ils étaient comme les autres, ils vivaient comme les autres, bon, surtout ici. Dans d'autres endroits, ils ont été complètement discriminés, ils ont été vilipendés, humiliés, enfin, c'était une catastrophe. Mais en fin de compte, personne ne savait pourquoi. Et tous les écrits qui existent aujourd'hui répètent tous la même chose, mais personne n'a trouvé et surtout prouvé qui ils étaient et pourquoi ils sont venus ici, etc.
Donc en tout cas, c'était des gens qui, dans leur vie quotidienne, par exemple, pouvaient être exclus d'une église, ou alors y entrer par une porte spéciale, différente, avec un béni qui est différent rien que pour eux. Ils pouvaient être accusés de propager des maladies, et on en passe.
On en passe, c'est des meilleurs. Seulement, dans toute chose, il y a des cas d'exception. Et ici, dans la petite agglomération de Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, les cagots, enfin les cache-carottes chez nous, n'ont pas du tout été discriminés. Et dans les églises de Cibourg et de Saint-Jean-de-Luz, il n'y a pas spécialement de porte des cagots, et surtout il n'y a pas le bénitier, parce que c'est ça l'élément fondamental. Lorsqu'on rentre dans une église, il y a le bénitier, on doit se bénir la main et faire le signe de croix. Et donc il n'y a pas de bénitier discriminatoire à Cibourg, Saint-Jean-de-Luz. Et sitôt que vous arrivez à Grugne, oui, il y a le bénitier discriminatoire, et il y a toutes les exactions.
Et alors, ce qui est terrible, c'est que cet état de cagot était transmis de père, de mère, en fils et en fille.
Oui, c'est ça. C'est toute l'histoire que j'ai trouvée et que j'ai prouvée. C'est-à-dire que les cagots ont été accusés d'être porteurs d'une lèpre, non seulement de la lèpre, mais qu'elle était héréditaire, ce qui est complètement faux. Et à cette époque-là, parce que donc nous sommes au début du Moyen-Âge, les gens, et encore aujourd'hui, les gens ont une peur phobique de la peste, de la lèpre et de ces maladies. Donc, étant donné qu'ils étaient soi-disant porteurs de lèpre, ils ont été discriminés, ils ont été mis à part en certains endroits. Mais je le répète, à Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, non. Et ça, j'en donne l'explication.
Alors, on va regarder de plus près le livre dont vous êtes l'auteur, Cago, Cache-Carotte, leur véritable histoire. Alors, il y a beaucoup d'historiens, enfin, quelques historiens qui se sont penchés sur cette histoire des cagots. Et vous battez en brèche leur théorie, hein, puisque au dos du livre, il y a même écrit « Seul contre tous ». Alors c'est vous hein, qui êtes seul contre tous.
Oui, je suis seul contre tous, mais ça ne me dérange absolument pas, parce que quand on a trouvé la vérité, il y a deux solutions, on se tait ou on l'a dit. Et je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'est Jean Jaurès qui a dit quand le courage, c'est de trouver la vérité et de la dire. Alors moi, j'ai trouvé la vérité et je la dis. Voilà.
Alors, il y a deux documents apparemment que un certain nombre d'historiens produisent. L'un s'appelle le cartulaire de l'an 1000. L'autre, c'est le fort de Navarre de 1155. Et donc, ces documents mentionneraient l'existence des cagots et vous dites non.
Eh bien, je dis non tout simplement pour la raison suivante. C'est que lorsqu'on veut faire de l'histoire, il y a deux manières de faire de l'histoire. Ou on prend les documents originaux, ou on prend ce qu'a dit un tel, un tel, un tel, un tel, et on répète. Alors moi, en ce qui concerne le cartulaire de l'an 1000 de Luc de Béarn, j'ai été chercher la copie de l'original à la Bibliothèque nationale de France à Paris, et je produis ce document. Ce document est en latin. Je ne parle pas le latin, mais j'ai fait traduire ce document par Bernard Pouget, qui est un ami, mais qui est surtout professeur de lettres et de latin ici à Saint-Jean-de-Luz. Et à partir de ce moment-là, on sait la vérité.
C'est-à-dire, que dit ce document ?
Alors ce document, il dit tout simplement qu'il s'agit d'un acte de donation. Point final, c'est tout. Il y a un mot dedans, Christianus. Et à partir de Christianus, tous les narrateurs se sont précipités pour dire que Christianus voulait dire Christian, qui était le premier des termes employés pour le peuple dont nous parlons. Et puis d'autres trouvent qu'il y a le mot cagot dedans, d'autres aussi qu'il y a un chevalier lépreux. N'importe quoi. Moi, je suis désolé. J'ai pris le document original, je l'ai fait traduire, et il s'agit d'un acte de donation. Point final.
L'autre document donc mis en avant, c'est ce fort de Navarre. Un fort, c'est quoi ? C'est une sorte de traité, c'est ça ?
Un fort, F-R-O-S, c'est un décret royal. Voilà, c'est ça le terme exact. Alors le fort de Navarre de 1155 est lui aussi évoqué par tous les gens qui parlent des cagots. Alors je rappelle qu'il y a quand même 72 sites internet, en euskara, en anglais, en français, tout ce qu'on veut, et il y a 50 livres qui parlent de cette chose-là, et tous évoquent le cartulaire de l'an 1000 et le fort de Navarre de 1155. Le fort de Navarre de 1155, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il y a, à Pamplona, il y a des lépreux. Mais il y a des lépreux à Pamplona, il y en a aussi à Paris, il y en a en Allemagne, puisque c'est le retour des croisés à Jérusalem. C'est rien d'original.
Et donc il ramène cette maladie en Europe, en fait.
Il ramène cette maladie en Europe. Et il y a, dans ce fort de Navarre, il y a le mot « gafo ». Mais en espagnol, et il y a des auditeurs qui comprennent l'espagnol, il y a deux mots, leproso y gafo. Ce sont des synonymes, et tous les deux signifient lépreux. Alors, tous les narrateurs, encore une fois, se sont précipités en disant que dans le fort de Navarre, on parle de gafo, c'est-à-dire de gaffé, c'est-à-dire des cagots. C'est complètement faux. C'est complètement faux.
Et puis, de toute façon, ça n'éclaire pas sur leur origine.
Absolument. L'origine, elle n'est pas du tout déterminée. D'ailleurs, c'est tout le but de mon livre. Si je n'avais pas trouvé l'origine, je n'aurais rien dit. Et on va arriver, si vous voulez, à parler de cette maison que je vous ai dite.
Alors, une maison à Cibourg.
Oui, une maison à Cibourg, parce que j'étais comme tout le monde. Hein, je suis parti de rien et je suis arrivé nulle part, comme disait Pierre Dac. Mais un jour, à Cibourg...
Et vous avez de merci à dire à personne, ça complète le proverbe.
Oui, pour compléter le proverbe. Et Pierre Dac était un homme qui avait beaucoup d'humour et d'intelligence. Et donc, sur le quai Ravel à Cibourg, au numéro 29, il y a une maison qui s'appelle Péricourt-Baïta. Bon, mais auparavant, cette maison s'appelait Montségur-Enéa. Alors là, bien sûr, pour moi, il y avait la piste Qatar, parce que Montségur-Enéa, ça veut dire la maison de Montségur. Et là, je me suis dit, il va falloir que tu trouves l'origine Qatar. Trouver, et surtout prouver.
Alors c'est étonnant, parce que pour tout le monde, les Qatars, ça va être le département de l'Aude, de l'Hérault, l'Aveyron, cette région-là, quoi, jusqu'aux marches de Toulouse, mais pas plus loin.
Exactement. Mais il y a quand même un écrivain qui s'appelle Pierre de Marca qui avait suggéré que l'origine des cagots, des cache-carottes, des gaffés, des gars, etc., pouvait être Qatar. Pouvait être, mais rien de plus.
Les époques correspondent, en tout cas.
Ah oui, tout à fait, les époques correspondent. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, je me suis inscrit au Centre d'études Qatar de Carcassonne pour être au plus près des historiens du monde Qatar, c'est-à-dire Michel Roquebert, Anne Prénon, Jean Duvernois, Monseigneur Élie Griff, j'en passe, et des meilleurs. Et auprès d'eux, j'ai appris ce que c'était que le qatarisme, j'ai appris l'histoire des Qatars, notamment, je le répète, auprès de Michel Roquebert, qui a remporté, je le signale, et, le Grand Prix d'Histoire de l'Académie française.
Donc on est obligé de faire un petit peu d'histoire, là, et hors du Sud-Ouest. Donc les Qatars, c'est des gens qui veulent retrouver la pureté originelle de la religion chrétienne, ça ne plaît pas du tout à l'Église, tout ça. Et il y a une alliance entre le roi de France et l'Église pour récupérer les régions du Sud-Est, quoi, le Languedoc.
C'est tout à fait exact. Il faut savoir donc qu'en 1150, il y avait de Marmande jusqu'à Béziers, il y avait 600 églises cathares. Donc c'était quelque chose de très important. Et le pape avait une seule peur, c'est que cette religion, enfin cette doctrine, parce que c'est quand même les chrétiens, c'est l'évangile selon saint Jean, le catharisme, traverse les Pyrénées et aille en Espagne. Donc les cathares et les et Rome ont parlé longuement en 1150, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, donc à partir de là, et malheureusement, les hommes n'ont trouvé qu'une seule solution, la guerre.
Voilà, et les Qatars ont été massacrés dans de nombreux endroits, en particulier à Béziers, où la population a été exterminée.
Donc tout commence effectivement le 22 juillet 1209 à Béziers. Il y a 200 000 hommes d'armes qui se présentent aux portes de Béziers, selon Michel Roquebert, et toujours selon ce brillant écrivain, en 48 heures, il y a 10 000 morts. C'est considérable. Et résonne encore sur les murs de Béziers la phrase terrible de l'archevêque Arnaud Amaury, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. »
Donc, on peut l'imaginer, hein, ces cathares, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. N'importe où dans le monde, quand il y a des populations en danger, des massacres, etc., que font les gens, ben, s'ils n'ont pas d'autre choix, ils fuient à la recherche d'un endroit plus sûr.
C'est tout à fait exact. Donc en 1209, il y a 10 000 morts, mais ensuite, il y a toutes les exactions. Il y a 100 Lavors, notamment, avec 180 nobles qui sont tués, 300 hérétiques brûlés, enfin, c'est terrible. À la mort de Simon IV de Montfort, qui était le commandant de la croisade contre les Albigeois, à sa mort en 1218, commence l'Inquisition, qui finira en 1339. Donc de 1209 à 1339, eh bien, que font les gens? Les gens, ils font comme ce qui se fait aujourd'hui en 2016, de Syrie ou d'ailleurs, les gens, ils fuient, ils s'en vont.
Et où s'en vont-ils alors?
Alors, il y a une destination qui ne prie surtout pas, ils s'en allèrent pas vers l'Est, parce qu'à l'Est, il y avait les seigneuries ecclésiastiques d'Arles et d'Avignon, et ils s'en allèrent pas vers là, vers cet endroit. Certains prirent la route d'Aragon parce que Raymond, comte de Toulouse, était le vassal de Pedro de Aragon. Donc certains s'en allèrent en Aragon, ils y furent plus ou moins bien accueillis. Mais d'autres suivirent une autre route.
Et donc cette route c'était
Cette route c'était tout simplement l'Aquitaine, parce que l'Aquitaine, suite au mariage de Aliénor d'Aquitaine et de Henri Plantagenet en 1152, très précisément, l'Aquitaine est anglaise. Donc les Cathares, ils s'enfuient, ils viennent en Aquitaine, et sitôt qu'ils sont en Aquitaine, ils sont à l'abri du roi de France, bien entendu, parce que la France et l'Angleterre sont en guerre comme d'habitude, et ils sont à l'abri du roi de France et des bûchers du Languedoc, bien sûr.
Mais pour autant, ils ne sont pas forcément bien reçus partout.
Eh bien, c'est une vérité première, c'est-à-dire que les étrangers, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, si ils ont de l'argent et s'ils ne restent pas longtemps, ils sont très très bien vus, mais s'ils n'ont pas d'argent et s'ils restent longtemps, ils sont mal vus, ça c'est obligatoire.
Oui, ça c'est presque toujours passé malheureusement. Hein. Alors donc, les Cathares qui arrivent, c'est eux alors que la population, selon les endroits, va appeler Cago, Cache-Carotte, etc.
C'est tout à fait exact, mais là encore une fois, il faut donner l'étymologie de la chose. Et ben, je suis celui qui a trouvé l'étymologie de la chose. Si vous voulez, il faut se remettre dans le contexte. En l'an 1200, la France, c'est quelque chose de tout petit. La France, c'est Paris, Bourges et Orléans. C'est tout petit. Le comté de Toulouse dont on parle, il va du Languedoc, il va de la Garonne jusqu'au Rhône. Bon, c'est très important. La Bretagne, le duché de Bretagne est tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est des pays très très importants. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'Aquitaine est un pays important à ce moment-là.
Et donc c'est là que beaucoup de Cathares arrivent, et donc on a expliqué, hein, par exemple à Saint-Jean-Luc-Cibourg ça va, mais dans d'autres endroits ils sont plutôt mal reçus, accusés de propager des maladies, etc. Mais on pourrait vous dire, bon ben très bien, on a résolu cette histoire, mais bon c'est une histoire ancienne, 1200, 1300, c'est fini aujourd'hui.
Je dois dire auparavant la chose suivante, c'est que donner l'origine de Cago et Ago. Donc je disais que la France était un tout petit pays, et l'habitude a été prise depuis le Moyen-Âge de parler de fleuves. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il vous dit « je viens de Meurthe-et-Moselle », l'autre vient de l'Ille-et-Vilaine, du Loir-et-Cher, etc., etc. En France, on a toujours l'habitude de parler de fleuves. Tous les départements du pays cathare, l'Aude, Carcassonne, l'Hérault, etc., ce sont toujours des départements qui ont nom de fleuves. Sur 95 départements français, 66 portent le nom d'un fleuve. Bon. Et vous avez un fleuve qui prend sa source au nord de Bédarieux et qui finit sa course dans le Tarn, enfin 40 km au nord de Toulouse, qui traverse donc dans tout le pays cathare. Ce fleuve fait 194 km de longueur. En français, son nom c'est Agout, A-G-O-U-T. Mais en occitan, la langue parlée donc en 1200, c'est Agot, A-G-O-T. Donc quand ils arrivent dans Bigorre, quand ils arrivent en Béarn, les premiers pays de l'Aquitaine, on leur demande d'où venez-vous. Et ils disent tout simplement de Agot, comme aujourd'hui on dit de Meurthe-et-Moselle, de Loir-et-Cher, etc.
D'accord. Voilà. Je connaissais la Salvetta sur Agout, qui est la fameuse eau pétillante à la Salvetta, c'est de laquelle vient.
Exactement, c'est la Salvetta d'Agout, mais en occitan c'est Agot. Et donc vous avez le fleuve Agout qui traverse Castres, qui traverse, qui traverse tout le pays cathare. Alors donc, c'est l'origine, c'est Agot. D'où venez-vous? De Agot. Bon, quand ils arrivent en Béarn et en Bigorre, on les traite de chiens, parce que comme vous l'avez dit, on n'est pas forcément très bienvenu hein, quand on vient quelque part. Donc, comment se dit chien en occitan, en landais, en béarnais, se dit Luca, C-A. Donc ils sont traités de chien, c'est-à-dire de K-Agot, chien de Agot. Et par contraction, ça donne Cagot. Ensuite, ils arrivent ici au Pays Basque, on leur demande d'où venez-vous, ils répondent toujours Agot, et nous, au Pays Basque, on met toujours une voyelle. Olaizola, Ramburu, Garayalde, Beloki, bon. Et donc, Ago se transforma en Agoté. Voilà donc l'origine du mot agoté, du terme agoté, et l'origine du mot, du terme kago. Voilà, c'est ça la véritable origine qui n'a jamais été trouvée. Je suis désolé, ou peut-être pas désolé, enfin c'est moi qui l'ai trouvé.
D'accord, eh bien, on en apprend en écoutant France Bleu Pays Basque. On pourrait vous dire tout ça, c'est l'histoire ancienne quand même, on parle du Moyen-Âge. Tout ça c'est fini, aujourd'hui on sait beaucoup plus de choses, on sait bien que la lèpre c'est pas transmis de façon héréditaire. Donc on éclaire certes un pan de l'histoire, mais qu'il n'y a plus vraiment de retentissement aujourd'hui.
Détrompez-vous, puisque je le marque dans mon livre, j'ai reçu des lettres de femmes qui me disent qu'elles ont cessé d'avoir des enfants pour que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est-à-dire quoi? La lèpre héréditaire. Alors, je dis donc que qu'il y a eu un exode considérable. Des milliers de Cathares sont venus en Aquitaine et ailleurs aussi. Bon. Et à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, mais le roi de France, il savait parfaitement qu'ils étaient ici. Rome également savait ici, et ça ne leur plaisait pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Ils avaient pour médecin Guy de Chauliac. Donc ils ont inventé un stratagème absolument infâme, ils ont inventé un stratagème par lequel ils ont attribué la lèpre héréditaire à tous les cagots, les gaffés de Bordeaux, etc., etc. Ils ont attribué cette lettre-là par des ordonnances envoyées au sénéchaux et à travers les autorités civiles et religieuses. Parce que je le dis, ils ne pouvaient pas venir en Aquitaine, mais les autorités civiles et religieuses ont reçu les ordonnances du roi. Et c'est comme ça que la lettre héréditaire a été attribuée au cagot. J'insiste bien, c'est très important. Alors, je dis ça sous le couvert de documents que je produis et de documents originaux de la Bibliothèque nationale de France. Il y a eu collusion entre le roi de France Charles VI, le pape Grégoire XII et Guy de Chauliac.
Et donc, cette idée est quand même restée un peu dans les têtes, aujourd'hui encore, c'est ça que vous dites ?
Eh bien, mon cher Olivier, elle est tout à fait dans les têtes, puisque je vous ai dit j'ai reçu des lettres. Je ne peux pas vous dire parce que j'ai d'autres éléments qui m'ont été, d'autres lettres qui m'ont été envoyées, mais ça va mettre en cause des personnes, donc je ne peux pas le faire. Mais encore aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent savoir la recette de la pitérale, bon, ils s'en vont sur Internet, ils trouvent la recette de la pitérale. Ils veulent savoir comment on fait pousser du tomate, ils s'en vont sur Internet. Bon, ils veulent savoir l'histoire des cagots, ils s'en vont sur Internet. Et sur Internet, vous avez 72 sites Internet, ils sont lépreux. Alors les gens, ils disent, encore aujourd'hui, puisque personne ne prouve et ne dit le contraire, eh bien, ils pensent que les cagots sont lépreux et puis que...
Hein, et que c'était pour ça qu'ils étaient rejetés.
C'est pour ça qu'ils furent, bien entendu, rejetés, qu'ils furent discriminés, ils étaient chassés des villes, et toutes les exactions, qui marchaient pieds nus, on leur perçait les pieds avec un fer rouge, j'en passe et des meilleurs, quoi, voilà.
Donc toutes ces accusations, il faut qu'à un moment, quelqu'un les fasse tomber.
Mais écoutez, il faut quand même les faire tomber, moi je suis très heureux de passer à France Bleu, parce que moi j'écris un livre, mais si les médias ne relaient pas ce livre, et les vérités qui sont dedans, parce que c'est ça qui est important, c'est les vérités, à partir de là, ben, ça durera encore des générations et des générations, mais tous les documents que je produis, je les ai trouvés, et j'apporte la preuve de tous ces éléments. Et notamment concernant la preuve, c'est un stratagème infâme, mais ce stratagème a parfaitement fonctionné, puisque à part, si vous voulez, l'agglomération de Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, où je vous ai dit que Raymond de Perreil, le dernier seigneur de Montségur, et les Aralédères ont protégé les Cache-Carottes, et il n'y a pas eu de discrimination à Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, ailleurs, ça a été un drame complet. Excepté également en Pays Basque Sud, parce que donc, en France Bleue, Pays Basque, il y a aussi le Pays Basque Sud. Alors, en Pays Basque Sud, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1087, Raymond IV de Saint-Gilles est venu lutter avec le roi de Navarre, le roi de Castille, le roi d'Aragon contre les Maures. Bon, il acquit à ce moment-là un prestige considérable. Et en gage de ce prestige et de cette relation, Alphonse, roi de Castille, donna sa fille en Elvire en mariage à Raymond IV de Saint-Gilles. Bon. Raymond IV de Saint-Gilles et Elvire partirent en croisade. Raymond IV de Saint-Gilles, c'est le leader de la première croisade. Bien. Et il mourut dans cette croisade, il n'en revint pas. De cette union naquit un enfant, mâle, très important pour les successions, Alphonse Jourdain. Alphonse Jourdain s'en alla en 1148 en Palestine, en croisade, et il fut assassiné par les Français. Parce que les Français, ils avaient eu peur qu'au nom de son père, il ne réclame le trône de Jérusalem. Alors donc, vous voyez, donc, encore une fois, la Castille et la France n'étaient pas amis-amis. Si bien que lorsque les Cathares sont arrivés ici à Hendaye, ils ont traversé la ville d'Assois et qu'ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien ils sont trouvés en famille, parce que bien entendu, nous sommes très très près, 1150-1200, quand ils arrivent en Iouchkadi, ils sont bien reçus parce que donc les relations sont bonnes et tout va bien. Mais à ce sujet, je signale une chose qui est assez extraordinaire, qui n'est pas assez connue, mais je la dis parce qu'elle est très importante. À Pasay, à San Pedro, aujourd'hui se construit une baleinière basque identique à celle qui échoua à Red Bay, au Canada, en 1565. C'est un ouvrage absolument magnifique, il faut France Bleu que vous en parliez, parce que c'est extraordinaire, ce bateau, ce galion, fait 27 mètres de long, 28 mètres de hauteur, il est construit à l'identique, c'est une œuvre absolument magistrale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le président de Albaola, parce que c'est ça la fondation, le président de Albaola, il s'appelle Chabi Agote. Chabi Agote, c'est un descendant de Qatar. Et quand je lui ai parlé de son origine Qatar, il m'a dit, bon, je m'en doutais, maintenant il le sait, mais Chabi Agote, tous ses ancêtres, jamais aucun de ses ancêtres n'a été discriminé, il n'avait pas la lettre, ils n'avaient rien. Voilà.